Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 21 de l'ITcast du 6 novembre 2015. ITcast a un an. L'épisode 0 du 31 octobre 2014 était avec Arnaud et Stanislas qui nous parlaient depuis le TechEd de Barcelone. Eh bien aujourd'hui, je vous propose encore un épisode international puisque je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Philippe Joubert, développeur Windows basé à Redmond et qui va nous parler de Nano Server. C'est donc le décalage horaire qui explique la publication tardive de cet épisode, mais cela en valait la peine puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'entretenir avec un développeur aussi bien placé. Donc tout de suite, Philippe Joubert à propos de Nano Server. Bonsoir à tous, donc je suis Pascal Solière et je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Joubert. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe qui est en liaison avec nous depuis Seattle, enfin plutôt Redmond, depuis les bureaux de Microsoft aux États-Unis. Et donc Philippe, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais, dans quelle équipe tu travailles, puisqu'on va parler d'un sujet assez particulier aujourd'hui dont tu vas nous révéler le sujet.
Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Joubert, je suis développeur dans l'équipe Windows et Device de Microsoft à Redmond et je m'occupe plus particulièrement du cœur de système d'exploitation qui est commun à l'ensemble des familles de produits qu'on peut mettre à disposition des clients. En fait, mon rôle principal est de définir une plateforme de système d'exploitation qui va supporter la plateforme applicative universelle, de manière à ce qu'on ait des expériences qui soient les mêmes pour le développeur et aussi pour l'utilisateur, quel que soit le type de produit qu'il utilise, que ça soit un desktop, une console, un téléphone ou des lunettes holographiques.
Donc c'est un petit peu la concrétisation de ce principe de fusion des OS Windows qu'on a avec depuis Windows 10 en fait. Hein. C'est un petit peu
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. En fait, on a développé ce cœur commun. Le travail a commencé dans Windows 8 où la version 8 de Windows Phone partageait l'ensemble du noyau de base avec Windows client et serveur. Mm-hmm. Et ce travail-là s'est continué avec Xbox One, mais aussi avec HoloLens et IoT Core. Donc tous ces produits-là en fait fonctionnent avec le même sous-ensemble de Windows qui leur permet de supporter la plateforme Windows universelle, de manière à ce que le développement soit facilité et qu'on ait des expériences qui soient uniformes pour les utilisateurs.
D'accord. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une de ces occurrences de Windows particulières, qui est Nano Server, qui devrait apparaître, enfin qui va apparaître, pardon, avec Windows Server 2016 très prochainement.
Oui, alors Nano Server, c'est une option d'installation de Windows Server 2016 qui en fait profite du travail qu'on a fait sur le cœur commun pour proposer une installation de serveur qui est beaucoup plus petite en termes d'espace disque et qu'on peut installer pour faire tourner un certain nombre de rôles sans avoir besoin d'embarquer l'ensemble du logiciel serveur. L'idée principale derrière Nano Server, c'est cette notion de zéro footprint, qui est que quand on installe le serveur, en fait, la seule chose qu'on devrait installer, c'est la possibilité d'installer autre chose, c'est-à-dire la possibilité d'installer les rôles dont on a besoin. Donc, c'est le principe de Nano Server, qui est quelque chose de très minimal, qui permet juste d'installer les rôles applicatifs qui sont nécessaires pour réaliser la fonction.
D'accord, donc une empreinte minimale, ce qui veut dire également donc une surface d'attaque minimale. on arrive dans les motivations, effectivement, pourquoi on vous a demandé ça, en fait. Ouais.
Voilà, en fait, on va donner quelques chiffres pour bien marquer les idées. Mm-hmm. Donc, une installation de nano serveur fait environ 400 mégaoctets sur disque, qui se compare à 5 gigas et demi pour serveur core. Donc, c'est beaucoup plus petit. Donc, ça va avoir un impact en termes d'utilisation de ressources. Mmh. C'est-à-dire que là où, en fait, serveur core, après le boot, va utiliser environ 140 mégaoctets de mémoire, nano serveur n'en utilise que 60. Donc, on va avoir un avantage en termes de vitesse de démarrage. Et comme on emporte une surface de code beaucoup moins importante, en fait, le nombre de patchs qui sont applicables à nano serveur par rapport à serveur core ou à serveur complet est beaucoup plus faible. Donc, on a réalisé une analyse basée sur les patchs qui ont été publiés en 2014. Et en fait, le nombre de reboots requis pour full serveur était de 11. Serveur core, qui est plus petit, on était à 6. Et pour nano serveur, on était à 3. Donc, en fait, avec un impact sur la disponibilité de la plateforme qui est très significatif. Et en fait, la raison pour laquelle ça fonctionne, ben c'est parce que on ne fait pas de patch sur les composants qu'on n'utilise pas. Donc, en fait, on en embarque beaucoup moins. Et de ce fait-là, il y a moins d'opérations de mise à jour qui doivent être effectuées sur l'image.
Donc, si je résume, on a vraiment un serveur qui, avec nano serveur, qui sera très pertinent dans un environnement de type cloud.
Oui, alors ça va être très pertinent dans un environnement cloud parce que les images vont être beaucoup plus petites. Donc, ce qui veut dire qu'elles vont être plus rapides à déployer, mais qu'on va aussi pouvoir augmenter la densité sur le même matériel. En fait, si on utilise nano serveur en tant que système d'exploitation haute, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plus de machines virtuelles clientes sur le même matériel. Et si on l'utilise en tant que système d'exploitation client, ça veut dire qu'on va avoir là encore plus de machines virtuelles sur le même matériel, avec une utilisation des ressources qui est bien meilleure.
Et un serveur Hyper-V ou de container ou autre qui reboot moins souvent, c'est quand même plus intéressant que d'être soumis au reboot dû au patch tous les mois, quoi.
Surtout si c'est le système d'exploitation haute,
voilà.
Puisque dans le cas d'un reboot, en fait, tous les clients sont affectés.
Voilà, on doit les déplacer, même si on... etc. Ouais.
Même si on fait une migration avant le patch, en fait, ça permet donc d'augmenter la disponibilité générale du système.
Donc, au niveau des scénarios typiques pour lesquels nano serveur serait intéressant, c'est ce qu'on a dit, quoi, c'est les hôtes Hyper-V, les...
Alors, en fait, ça peut être soit l'hôte Hyper-V sur une machine physique. Ça peut aussi être le client dans une machine virtuel, et nano serveur peut aussi être utilisé dans un container.
Dans un container.
Oui. Des containers qui sont plus petits, plus denses et qui démarrent plus rapidement.
Dans la Technical Preview 3 de Windows Server 2016, qui date de cet été, l'image qu'on utilise pour des containers, c'est une image core. C'est pas un nano serveur. Donc, est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de nous dire, que bientôt on aura une image serveur de nano serveur pour faire des containers ? C'est ça ?
Oui.
D'accord.
En plus de l'image core, on aura une image nano.
D'accord. Donc des containers en nano et puis des nano serveurs en tant que container host, que machine virtuelle hébergeant des containers. Donc, effectivement, au niveau densité, ça sera super intéressant.
Donc, de manière générale, en fait, si le rôle ou l'application fonctionne sur Nano serveur et que les outils de management qui sont fournis sont suffisants pour le scénario choisi, il y a beaucoup d'avantages en termes de densité, de rapidité de déploiement, de vitesse de boot, ainsi que de fréquence de patch à utiliser Nano serveur par rapport à serveur core ou à serveur full.
Donc, on voit bien à quoi ça sert, quelle a été la motivation. Puis n'oublions pas aussi l'aspect sécurité, hein. Moins de code, moins d'exposition, parce que moins de surface d'attaque. Donc, c'est
Alors
également intéressant.
sur l'aspect sécurité, on a aussi quelques chiffres. En fait, si on compare le nombre de drivers qui sont chargés après le boot entre Nano et Server Core, il y a environ 30% de moins. Il y a pratiquement moitié moins de services qui sont en train de tourner sur la machine et moitié moins de ports qui sont ouverts sur le réseau. Donc en fait, on réduit largement la surface d'attaque de ce point de vue-là.
J'ai testé il n'y a pas longtemps la création d'une machine virtuelle d'un de nos serveurs avec la procédure qui est documentée sur Technet, qui est très bien faite d'ailleurs. Elle rentre vraiment dans le détail, c'est assez facile à suivre, hein, donc je recommande aux gens d'aller tester, c'est assez simple. Est-ce que cette procédure va rester comme ceci ou est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'encore plus simple à
Alors,
l'avenir? Parce que pour l'instant, c'est quand même assez manuel.
oui, alors en fait, dans le prochain technical preview, on va essayer de simplifier la procédure pour la rendre en fait plus facile d'utilisation. Donc en fait, on va convertir l'ensemble des scripts qui sont donnés dans un module PowerShell et donner plus de flexibilité et de capacité au module. Alors en fait, une fois que le preview va être disponible, on est très intéressé par recevoir du feedback des gens. Donc on a une adresse email nanoserver@microsoft.com à laquelle vous pouvez envoyer vos commentaires sur les procédures d'installation et sur nanoserver en général.
nanoserver@microsoft.com.
.com.
D'accord. Je le mettrai sur l'article accompagnant l'épisode. Donc aujourd'hui, la procédure d'installation consiste à créer un VHD à partir d'une image spécifique pour NanoServer et en incluant dans le VHD qu'on crée des drivers qu'on choisit, des modules qu'on choisit, enfin des fonctionnalités qu'on va choisir. En gros, c'est ça le principe, hein.
Voilà, en fait, l'idée, c'est que NanoServer arrive en kit à assembler soi-même. C'est-à-dire qu'on a une image de base qui est au format WIM, dans laquelle on peut utiliser les outils DSUM pour installer des packages. Et en fait, au lieu d'avoir une image qui contient déjà l'ensemble des rôles qui sont supportés, hein, c'est toujours le modèle du zéro footprint,
Oui.
les rôles sont à l'extérieur sous forme de packages qui sont installables indépendamment en fonction du type d'application choisi. Donc il y a un certain nombre de rôles qui sont disponibles, de drivers et d'outils. Donc on a notamment pour les drivers, on fournit un package qui contient l'ensemble des drivers qui sont applicables. Donc on a un package qui est assez gros. Mais on a aussi une procédure d'installation qui permet d'installer les drivers individuellement. Donc si on a un type de matériel spécifique sur lequel on veut faire tourner l'image, il est facile d'avoir en fait juste ce dont on a besoin. On a actuellement donc Hyper-V, ça c'est la partie haute. On a un package de storage qui est en fait la partie SMB serveur. Clustering et failover. Dans le prochain technical preview, on aura le serveur DNS et le serveur IIS, le serveur web, qui supportera ASP.NET 5. Et je pense que ça doit être à peu près tout en termes de rôle. On aura dans la TP4 serveur web et serveur DNS.
Ok, donc on a une méthode donc bien documentée aujourd'hui qui va être simplifiée, si je résume bien ce que tu nous as dit, hein, pour installer un nano serveur, que ce soit dans une machine virtuelle ou sur une machine physique,
oui.
Avec une modularité qui nous permet donc d'ajouter toutes ces fonctionnalités dessus. À propos de la machine physique, dans la procédure actuelle qui est documentée, pour l'installer sur une machine physique, on nous dit voilà, vous générez un VHD et vous mettez en place un boot from VHD en fait.
Oui, c'est la procédure
actuelle. C'est toujours la procédure.
C'est possible d'appliquer le VHD sur un disque physique. Je pense que c'est une procédure qu'on va documenter dans le cadre de Nano Server. Il n'y a pas d'aspect spécifique à Nano Server pour l'installation d'un VHD sur un disque physique. Sinon, l'autre possibilité est en fait de booter Nano Server au travers de Pixie. Il y a une vidéo sur Channel 9 qui montre comment booter de cette façon-là. Et l'installation sur le disque physique peut être faite à partir de l'image qui est bootée par un Pixie. Mais ça, c'est des choses qu'on va probablement standardiser et documenter de manière plus explicite.
Donc maintenant, si on vient un petit peu à ce qu'on peut faire avec Nano Server, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ce qu'on peut faire tourner sur un serveur core habituel, quoi, et un Nano Server, parce que j'imagine qu'on est dans un environnement un petit peu plus restreint quand même. Donc est-ce qu'il y a des grandes différences dans ce qu'on peut faire tourner entre les deux, sur les deux?
Oui, alors en fait, on a éliminé environ 90% de l'espace disque pris par serveur core dans Nano Server. Donc évidemment, on a moins de surface au niveau des API que les applications peuvent utiliser dans Nano Server que dans serveur core. Donc en fait, initialement, il y a moins de rôles qui sont disponibles. Donc les rôles qui sont disponibles actuellement, c'est Hyper-V, SMB et clustering et failover. Dans le prochain technical preview, on aura IIS, le serveur web et le serveur DNS.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Et en fait, il y a un travail qui est fait pour porter les rôles existants sur la surface d'API qui est disponible dans Nano Server. En fait, c'est un travail qu'on fait en... C'est-à-dire que si on prend les binaires tels quels de serveur core, en général, ils fonctionnent pas directement sur Nano Server. Donc, il y a un petit travail à faire qui est finalement similaire au travail qu'on effectue pour mettre en œuvre le cœur commun. C'est-à-dire qu'on change un petit peu les API que les programmes utilisent, de manière à ce qu'ils utilisent uniquement des API qui sont disponibles sur Nano Server. Donc on peut espérer que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de rôles qui sont disponibles sur Server Core, qui vont être disponibles sur Nano Server. Donc ça c'est pour la partie rôle. On a aussi développé une couche de compatibilité applicative qui permet de faire tourner des applicatifs qui n'ont pas été préparés spécialement pour Nano Server sur Nano Server à partir du moment où ils n'utilisent que les API qui sont disponibles. Donc dans la liste des packages qui sont disponibles avec Nano, c'est le package qui s'appelle Reverse Forwarders qui, quand il est installé, implémente une petite couche de compatibilité qui permet de faire tourner des binaires sans modification à partir du moment où ils se conforment à la surface d'API qui est disponible dans Nano. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire tourner un certain nombre de logiciels, notamment open source, sans qu'il soit besoin de les modifier. Donc, en fait, on a une liste de logiciels qui ont été validés. Alors, je fais la donnée. On a Chef, PHP, Nginx, Python, Node.js, Go, Redis, MySQL, Java, Ruby, SQLite, et OpenSSL que vous pouvez directement aller charger depuis le web. Vous installez le package de compatibilité applicatif et ces applicatifs-là fonctionnent directement.
Sans modification.
Sans modification. Hein. Il y a une vidéo sur Channel 9 où quelqu'un de mon équipe fait la démonstration de Node.js où on va le chercher sur le directement depuis le web, on le télécharge, on le copie sur l'instance Nano Server et on est capable de faire démarrer une application Node immédiatement.
D'accord.
Alors c'est une plateforme de compatibilité qu'on va affiner au fur et à mesure. Donc en fait on garantit pas que n'importe quelle application récupérée du web va fonctionner, mais grosso modo les applications open source qui ne font pas d'appel graphique, en général ont d'assez bonnes chances de fonctionner sur Nano Server. Là encore, s'il y a des applications qui sont importantes, c'est bien qu'on en entende parler au moyen de l'adresse email Nano Server pour qu'on puisse regarder dans quelle mesure on peut essayer de les faire tourner.
Et ben, c'est une bonne nouvelle, d'accord. Ben, n'hésitez pas, qui nous écoutez, à faire remonter vos requêtes s'il y en a. Donc ça, en même temps tu as répondu à une autre de mes questions qui est au niveau de la configuration, de la gestion de configuration de ces serveurs, si on pouvait utiliser des outils qu'on connaît comme par exemple Chef, eh ben, tu as répondu en disant que Chef on peut le porter, on peut l'exécuter comme ça sans changement directement sur Nano Server.
Chef fonctionne déjà avec la couche de compatibilité voilà. Applicative. On a une vidéo sur Channel 9 qui présente une démonstration de l'utilisation de Chef sur Nano Server. On est aussi en train de travailler sur Puppet qui va devenir disponible assez rapidement.
Super. Au niveau des déploiements maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique de prévu au niveau de l'automatisation des déploiements où on utilise les méthodes classiques liées à Windows Server?
Alors, c'est principalement les méthodes classiques. En fait, Nano fonctionne avec les outils de déploiement tels que WDS. On a une vidéo sur Channel 9 qui démontre le Pixie Boot. Et on a aussi un certain nombre de blogs, d'entrées dans le blog, qui montrent la façon dont on peut utiliser Pixie pour démarrer une instance Nano Server. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport à l'existant.
D'accord. Maintenant, une fois que les serveurs sont déployés, que les images sont déployées, il faut configurer un petit peu ce qu'on va installer dedans comme fonctionnalité. Donc, est-ce qu'on va pouvoir utiliser des outils de configuration? Donc, tu as répondu en partie avec Chef et bientôt Puppet. Est-ce que PowerShell DSC, évidemment, dans le monde Microsoft, va être supporté? Donc, je le suppose.
Dans le prochain technical preview, PowerShell DSC va être supporté en mode push.
En mode push, d'accord. Il y a un autre truc que j'ai remarqué en essayant donc Nano Server récemment, c'est cette nouvelle console en mode texte, la Emergency Management Console.
La console texte existe depuis longtemps. C'est une option de configuration qu'on peut mettre en œuvre depuis la BCD. Donc en fait avec BCD Edit. On peut activer la console de management qui donne sur un port série l'accès à un certain nombre de paramètres et qui permet aussi de faire démarrer une ligne de commande, un CMD. Alors en fait, dans le cadre de Nano Server, on a une difficulté à la base, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait démarrer l'image, notamment si on n'est pas dans un environnement data center où on est capable de référencer directement une machine physique ou une machine virtuelle, c'est que pour se connecter à la machine, il va falloir qu'on ait son adresse IP. Et comme NanoServer n'a pas d'interface directe, que ça soit en mode texte ou en mode graphique, se posait le problème de savoir quelle était l'adresse IP de la machine qui venait de booter. Et donc en fait, on utilise cette Emergency Management Console pour donner l'adresse IP qu'a obtenue la machine de manière à ce qu'on puisse s'y connecter.
Effectivement, et on peut même changer la configuration réseau. Hein.
Alors, on peut changer une partie de la configuration réseau. Donc, on va faire évoluer en fait les fonctionnalités de la console dans le prochain technical preview. Donc, on va donner la possibilité de configurer les adresses IPv4 et V6, ainsi que la table de routage. On permettra aussi une configuration minimale du pare-feu, de manière à pouvoir ouvrir des ports. Et en fait, on va changer le nom de la console, qui va s'appeler la Recovery Console, donc la console de récupération, je pense.
Oui.
Donc en fait, c'est vraiment pour les situations les situations de prototypage ou de démonstration, ou les situations graves dans lesquelles on a besoin d'un accès physique à la machine parce qu'on n'arrive pas à la joindre pour le réseau. Sachant que la majeure partie du management, normalement, doit se faire à distance.
Effectivement. Et donc, puisque tu en parles, on manage ça à distance, et notamment avec l'outil de management privilégié chez Microsoft, qui est PowerShell. Voilà. Donc, utiliser PowerShell à distance avec du InterPSC, on va se connecter. Et là, on va tomber sur un shell PowerShell de NanoServer. Et ce shell-là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est complet ? Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire avec PowerShell sur un poste complet ? Ou est-ce qu'il y a certaines limites ?
Alors, on peut faire la majorité des choses importantes, mais on ne peut pas tout faire parce que de la même manière que NanoServer a fait passer Server Core par une cure d'amaigrissement sévère, c'est la même chose pour PowerShell. En fait, le PowerShell qui est sur NanoServer n'est pas construit sur .NET complet. En fait, il est basé sur le core runtime de .NET, qui en fait est beaucoup plus petit. Je crois que le core runtime fait dans les 45 mégaoctets sur disque, et PowerShell fait juste 8 mégaoctets. Cependant, on a un support qui est relativement complet. On peut faire donc les sessions, et on supporte tous les types de comme commandlet, que ça soit C#, script ou sim. Il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, notamment les sessions interactives, hein, puisqu'on n'a pas normalement accès à la console, sauf qu'en cas de problème. Il y a certaines fonctionnalités de PowerShell, comme par exemple les transactions qui sont pas disponibles. Et de la même façon, si on a des requêtes, c'est des choses qu'on peut considérer.
D'accord. Donc
pour
si
les
on a
versions
des scripts,
futures.
Ok. D'accord. Bah, c'est une bonne chose à savoir. Donc si on a des scripts PowerShell à faire tourner sur des serveurs Nano, il faut tester parce qu'on n'est pas sûr que tout fonctionne aujourd'hui, mais on peut toujours remonter une requête, le cas échéant, si c'est important. J'ai vu qu'il y avait une autre option de management également dont on parlait dans un cours MVA concernant PowerShell, et dont on mettra l'adresse également sur l'article, qui est les Remote Server Management Tools, donc des outils de management à distance de Windows Server. Donc c'est une interface graphique web pour aller manager des serveurs Windows Server 2016 à distance, qui a l'air plutôt sympathique.
Oui, alors je vous encourage à aller voir la vidéo sur Channel 9 qui présente ces outils-là. En fait, c'est une suite d'outils avec une interface web qui, en fait, propose des versions à distance d'outils qui sont locaux actuellement. Donc on a des choses comme le device manager, un équivalent de task manager aussi. Et on va c'est quelque chose qu'on va enrichir au fur et à mesure. Le point important là n'est pas et que même si PowerShell est la méthode de management qu'on recommande, c'est pas la seule. Donc en fait, il y a ces outils web, il y a aussi un certain nombre de snap-in MMC qui fonctionnent comme le Computer Management, Event Viewer, le gestionnaire pour Hyper-V ou Server Manager qui sont disponibles et qui fonctionnent comme sur Server Core.
Donc, c'est-à-dire qu'on a un management à distance par WinRM qui fonctionne complètement.
Pour les parties qui sont disponibles.
Oui, on est d'accord.
Pour le management des fonctionnalités qui sont disponibles dans Nano Server, il n'y a pas de disruption massive des habitudes de management. La plupart des outils devraient fonctionner à peu près comme sur un Server Core.
J'ai entendu parler récemment, enfin, on a tous entendu parler récemment d'un futur serveur SSH. Enfin, il y a un portage en fait de OpenSSH sur Windows Server. C'est prévu dans Nano ou?
Alors, en fait, il y a un serveur SSH qui va être disponible non seulement sur Nano, mais aussi sur Windows Server 2016.
Ouais.
Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Tout le monde va être content. Donc il y
Ravi.
a un article dans le blog de PowerShell qui détaille un petit peu le support. Et ça sera disponible dans Windows Server 2016.
Donc tout à l'heure, bah, j'avais une avant-dernière question qui était qui concernait les outils de gestion de configuration. Et donc tu y as répondu tout à l'heure en disant que Chef était déjà, et on pouvait le constater dans une démo, supporté, et que Puppet le serait bientôt. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, bah pour terminer, je sais pas, est-ce qu'on a aujourd'hui une roadmap, quelque chose à partager avec nos auditeurs sur le futur, c'est-à-dire le proche futur, hein, déjà la Technical Preview 4 de Windows Server qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, je pense.
Oui, je pense que ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc en fait, Nano Server sera une option d'installation pour Windows Server 2016 dans les éditions standard et data center. Nano Server fera aussi partie du stack Azure. Donc il y a plus de rôles et de fonctionnalités qui vont être ajoutées dans le prochain Technical Preview. Donc, on va avoir le serveur web, IIS, le serveur DNS et un support pour les containers. Et voilà, c'est à peu près tout.
D'accord, ok, bah c'est parfait, c'est génial, c'est ce qu'on attend, et puis j'espère que, enfin, on attend tous avec impatience cette Technical Preview 4 qui devrait arriver, j'espère, avant la fin de l'année calendaire. Et puis, bah écoute, Philippe, je te remercie beaucoup d'avoir passé cette demi-heure, cette grosse demi-heure avec nous pour parler de nano serveur. De bon matin pour toi, même si c'est la soirée pour nous.
Ben
Parce que
merci.
toi, tu commences ta journée.
Oui, la journée commence.
Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une très bonne journée de vendredi. Et puis, un très bon week-end.
Merci
Et puis,
à
on se
toi aussi.
retrouvera peut-être bientôt s'il y a de nouvelles choses à dire sur le sujet.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et au revoir à tous. Et puis, je vous donne tous rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Bonne soirée et bon week-end.